Terre, appelle fusée lunaire.
Explorer de nouveaux mondes étranges.
Fusée lunaire, répondez, répondez.
Découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Sur France Inter.
Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers?
Le temps d'un bivouac.
Le temps d'un bivouac.
Alors nous sommes allés voir.
Daniel Fievé.
Dans le top 10 des métiers que tout le monde connaît mais que quasiment personne n'exerce, celui d'astronaute occupe une bonne place. Voilà typiquement le genre de métier auquel on rêve quand on est petit et qu'on oublie en grandissant. À quelques exceptions près, bien sûr. Il se raconte qu'avant de devenir le 10e astronaute français, le petit Thomas Pesquet a passé de longues heures à piloter le vaisseau spatial en carton que lui avait confectionné son papa. 30 ans plus tard, il s'asseyait à bord d'un vrai vaisseau Soyouz et mettait le cap sur la Station Spatiale Internationale pour y travailler pendant 6 mois. Alors la question se pose, qu'est-ce que Thomas Pesquet a de plus que tous les autres enfants de sa génération qui rêvaient eux aussi, un jour, d'aller voir d'un peu plus près les étoiles? Faut-il être déjà un peu extraterrestre pour obtenir son ticket pour l'espace? C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Thomas Pesquet nous emmène bivouaquer en apesanteur.
Le Soyouz est passé en alimentation interne, le lancement maintenant est démarré. C'est ce qu'annonce le technicien russe. Vous voyez que la ligne d'alimentation en carburant du troisième étage vient d'être retirée. Donc on est à peu près à 35 secondes du lancement.
Les engines vont fire, ramping up towards flight speed. And liftoff. Peggy Whitson, Oleg Novitsky and Thomas Pesquet rocketing towards the International Space Station.
Bonjour Thomas Pesquet.
Bonjour.
Nous étions le 17 novembre 2016, le lanceur Soyouz s'arrachait du sol de Baïkonour et vous étiez à bord, vous vous apprêtiez à devenir le 10e français à atteindre l'espace. Quel souvenir vous gardez de ce moment précis ?
Un souvenir surtout de concentration extrême pour nous, pour l'équipage à bord, parce que c'est lancement, c'est spectaculaire de l'extérieur, mais de l'intérieur, bizarrement, ça l'est beaucoup moins. Évidemment, on l'a vécu de nombreuses fois au simulateur, alors ça vibre beaucoup plus, il y a beaucoup plus de tension, il y a plus d'enjeux. On sait que cette fois-là, on risque notre vie pour de vrai. Mais on est sous la coiffe de la fusée, on regarde nos instruments et puis on contrôle cette première partie du vol, donc vraiment beaucoup de concentration.
Sous la coiffe de la fusée, ça veut dire au sommet, dans la tête de la fusée. Vous êtes dans quelle position ? Vous êtes allongé ? Vous êtes assis ?
On est en position un peu fœtale. On est recroquevillé dans nos sièges qui sont moulés. Enfin, la coque du siège est moulée à nos dimensions. On est attaché. En fait, on a pas mal de sangles un petit peu partout. La sensation est étrange. On a vraiment l'impression d'être ligoté à un missile balistique. Et pour atteindre cette capsule, donc on monte en ascenseur le long de la fusée. Je me rappelle que ça me paraissait interminable. À chaque fois, je me disais non, mais là, on est arrivé. Ah ben non, on continue. Là, on est arrivé, on continue, ça commence à faire haut quand même, 53 mètres de hauteur, donc ça fait quelques étages quand même. Et puis voilà, descendre dans se loger dans la fusée, c'est petit, il n'y a pas de place, il y a un côté sous-marin, on ferme des grosses as métalliques sur vous, qu'on boulonne, donc il y a ce côté qui est un peu étrange. Ouais.
Et quand les moteurs s'allument, que tout vibre et qu'enfin la fusée décolle, physiquement, on ressent quoi ? On est écrasé au fond de son siège ?
On est écrasé, l'accélération, elle est contrôlée pour être supportable, donc elle démarre assez doucement, en fait, et on va rester à 2G, donc deux fois l'accélération de la pesanteur, on pèse deux fois son poids, mais on peut quand même lever les bras, on peut quand même bouger. Alors le reste du corps est attaché de toute façon, mais on a besoin des bras pour accéder au tableau de contrôle. Et ensuite, on va monter successivement vers au maximum 3G au décollage. Donc c'est très supportable et c'est assez doux en fait. C'est une accélération constante. La fusée, elle accélère quasiment constamment depuis le décollage jusqu'à la mise en orbite, à part à la transition entre les différents étages de la fusée, où là, c'est assez drôle parce que l'accélération s'arrête. Donc on est projeté vers l'avant, on a l'impression d'un freinage, on freine pas en fait, c'est juste qu'on arrête d'accélérer et ensuite le deuxième étage se met en marche et là c'est un vrai coup de pied aux fesses, bam, on repart dans le siège et là c'est parti pour la suite.
Ouais, alors cette aventure démarre pour vous en réalité 8 ans plus tôt. Vous êtes pilote chez Air France quand en 2008 l'Agence spatiale européenne, l'ESA, lance un grand recrutement à travers toute l'Europe à la recherche de sa nouvelle promotion d'astronaute et tous les médias s'en font l'écho à l'époque, à commencer par l'agence France-Presse.
Les organisateurs attendent de 20 000 à 50 000 candidatures provenant des 17 pays membres de l'ESA. Seuls 4 seront choisis. Ils devront tous parler et écrire parfaitement en anglais. Le russe est la seconde langue officielle de la navette. Le parler est donc un atout primordial. Les candidats doivent avoir un bac plus 6, de préférence en sciences naturelles, ingénierie ou médecine. Peu importe le domaine, tant que vous y excellez.
Il faut être assez universel pour être astronaute. Il faut, des fois on est médecin ou chercheur scientifique, d'autres fois on pilote un véhicule ou on gère un système. Il ne faut pas être champion olympique nulle part ou prix Nobel, mais par contre il ne faut pas être mauvais pratiquement nulle part.
La voix de l'astronaute Jean-Pierre Aigneret donnant quelques clés pour avoir le bon profil pour être astronaute. Alors c'était la troisième fois que l'ESA, la troisième fois de son histoire que l'ESA ouvrait un recrutement d'astronautes. Le premier avait eu lieu en 1978, le deuxième en 1992. Et là, une chance s'offre à vous. On est en 2008 et l'agence spatiale lance ce nouveau recrutement.
Ouais, alors il faut remettre ça dans le contexte. En 2008, on vient de lancer le module Columbus qu'on a installé sur la Station Spatiale Internationale. Donc c'est là la participation principale de l'Agence Spatiale Européenne au programme de la station. Donc ça nous donne accès, ça nous donne droit, on va dire, de contribuer à cette station à des vols pour des Européens. Donc l'agence décide de recruter une nouvelle promotion. Ça arrive pas souvent, il faut être au bon endroit au bon moment. Hein. Ouais. Dans tous les parcours, il y a de la chance. Donc moi j'ai le bon âge au bon moment, j'ai à peu près le bon background, donc on s'inscrit, on se lance.
Mais alors on s'inscrit en se disant quoi? En se disant j'y vais, on verra bien, ou j'ai vraiment toutes mes chances? Enfin, quand même vous êtes plus de 8000 à candidater, vous y allez dans quel état d'esprit?
On se dit, je pense pas qu'on se dise, enfin du moins c'était pas mon cas, moi, dire bon, on va réussir, je vais réussir, c'est moi le meilleur. Enfin si on se dit ça en général, au moment du test psychologique, je sais pas, j'imagine que ça se passe un peu moins bien.
Mais on faut quand même y croire un petit peu.
Oui, on y croit un petit peu, mais on se dit voilà, je vais faire de mon mieux et puis on verra bien.
Devenir astronaute, c'était un rêve d'enfance?
Ouais, c'était un rêve d'enfance, mais
vraiment.
Oui.
Tout petit, vous vouliez être astronaute?
Oui, je me rappelle. Mais après, c'est un truc que j'avais pas perdu de vue. Mais il y a tellement peu de chance, il y a tellement peu d'opportunités que on peut pas. Moi, ça me paraît pas raisonnable de construire une carrière juste dans ce but-là. On l'a vu, une sélection tous les 15 ans. Bon, voilà, il y a des gens qui étaient trop jeunes en 92 et qui étaient trop vieux en 2008, malheureusement, qui étaient sans doute meilleurs que nous. Mais voilà, faut faire des choses qu'on aime. Et moi, il s'est trouvé que tout ce que j'ai fait, d'être ingénieur en aéronautique, d'être pilote, c'était des choses que j'aimais, c'est des choses qui m'ont donné les bonnes croix dans les bonnes cases, on va dire, à la sélection.
C'est vrai cette histoire que votre père, quand vous étiez petit, vous avez confectionné un vaisseau en carton dans lequel vous avez passé de nombreuses heures.
Ouais, c'est vrai. Alors ça, c'est marrant parce que c'est vraiment l'image d'Épinal que tout le monde a retenue. mais c'est vrai. Hein, j'ai retrouvé des photos il y a pas très longtemps. Enfin, mes parents ont retrouvé des photos. Et non, c'était vrai avec des petits coussins dedans et puis des espèces de cadrans dessinés sur un bout du carton là. Non, il y avait eu ça quand j'étais tout petit. Mais bon, j'imagine que c'est pas le seul truc qui a déterminé mon parcours, évidemment, parce qu'il y a plein de petits garçons et de petites filles qui ont les mêmes expériences quand ils étaient jeunes. Mais
qui sait, ça a peut-être planté une petite graine quand même.
Peut-être. Non, mais c'est vrai. La chose qui est vraie, c'est que moi j'avais cet intérêt, on va dire, cette passion pour l'aéronautique, l'espace, qui arrivait un peu de nulle part. En fait, j'avais personne autour de moi vraiment qui gravitait dans ce milieu-là ou qui a pu m'aiguiller à droite ou à gauche. Et puis voilà, moi c'était mon truc. Je mettais des posters dans ma chambre. Bon, j'étais pas le seul, évidemment. Il y a plein d'autres gens, mais ça aurait pu être autre chose. Quoi.
Ouais. Alors sur les 8413 candidats, 1000 sont retenus pour passer les premières épreuves qui ont lieu à Hambourg. En quoi consistaient ces premiers tests? Qu'est-ce qu'on vous fait faire?
Alors, les premiers tests, c'était beaucoup de tests psychotechniques, en fait. C'est un peu similaire à une sélection de pilotes. Ça va être des suites de chiffres sans fin qu'on entend dans un casque, et donc la voix énumère des chiffres. Puis on va s'arrêter. À ce moment-là, il va falloir entrer sur son petit clavier tous les chiffres dont on se rappelle, mais en partant de la fin et en remontant vers le début. Ce genre de truc où on a un cube qui s'affiche sur l'écran avec une croix rouge sur une face, un cube en 3D vectoriel. Là. Et puis ensuite, l'écran devient noir. On a des sens de rotation dans le casque.
Donc on vous dit à gauche, à droite.
À gauche, en avant. Enfin, c'est tout en anglais, évidemment. Ah, mais en arrière, à gauche, en arrière. Et puis ça va de plus en plus vite. vite, et à un moment ça s'arrête, le cube revient sur l'écran, et là il faut cliquer sur la face où la croix s'est retrouvée si on a bien fait tourner le cube dans sa tête.
Ça dure combien de temps? Ça doit rendre un peu fou, non?
C'est, ouais, non, moi je trouve ça un peu rigolo, mais, ah oui. Ça dure toute une journée. Ah oui. On a eu aussi des tests d'anglais, on a eu des tests, donc toute une journée, batterie de tests comme ça. C'est des tests assez courts, hein, c'est toujours 2-3 minutes. Qu'on enchaîne dans une grande salle. Je me rappelle, on était une quarantaine, chacun devant son écran avec le casque sur les oreilles.
Hein. Alors, en tout cas, vous réussissez hein, ces premiers tests. Ensuite viennent les tests psychologiques hein, qui ont lieu quelques mois plus tard. Là, vous n'êtes plus que 200, hein, je crois.
On est 200, oui, à ce moment-là, 192, je crois, exactement. Et là, c'est plutôt du travail en groupe. Donc on peut être 6 avec un problème complexe à résoudre. C'est toujours en temps limité, évidemment, pour ajouter un facteur de stress. Et là, par contre, c'est vraiment pas important de réussir. Ce qui est important, c'est de travailler en groupe. Et on pourrait croire que c'est un exercice assez simple, mais on voit vraiment des gens qui... Alors, panique, c'est peut-être un peu fort, mais qui stressent beaucoup. D'autres qui essayent vraiment de tirer la couverture à eux, des choses comme ça. Évidemment, le panel qui nous observe est là pour détecter tous ces comportements-là.
Alors après tous ces tests... L'attente. Vous attendez les résultats. Vous attendez longtemps d'être.
On attend. Il y a eu beaucoup de phases. Hein, donc il y a eu la visite médicale. Après il y a eu un premier round d'entretien avec tous les responsables de l'agence. Et ensuite il y a eu un dernier round d'entretien avec le directeur de l'agence qui a tenu à voir personnellement tous les candidats.
Là vous étiez plus qu'une quarantaine.
C'est descendu à 45 et puis ensuite on était une vingtaine, ensuite 10. Donc ça se précisait. Et c'est là que ça devient stressant en fait. C'est pas au début quand on est 8500. Bah non, quand on est 8500, c'est pas grave. De toute façon, les chances sont tellement minces que voilà, on fait son mieux.
On commence à s'autoriser à y croire.
On commence à s'autoriser à y croire. Et c'est là, quand on est 10 pour 4 places, au final, on était 6, hein, mais quand on est 10 pour 4 places, 40% de réussite, c'est énorme. C'est de loin la phase la moins sélective.
Vous vous souvenez du moment où vous avez appris que vous étiez enfin pris?
Ah oui, je me rappelle bien.
C'était comment?
Donc, on voit publication de la conférence de presse, une petite semaine à l'avance. Et là, on se dit, moi, je me rappelle le lundi pour le mercredi, je crois, de la semaine suivante. Je me dis, ouais, il publie la conférence de presse et on n'a pas entendu parler de quoi que ce soit. Donc là, c'est fini. J'attends jusqu'à la fin de la semaine, quand même, je me dis. Ouais. Si vendredi, ils ne nous ont pas prévenus pour une conférence de presse le mercredi, quand même, c'est sûr que non.
Bon, vous y croyez plus trop, en fait.
Là, j'y crois plus trop, non. Non. Le lundi, je dîne avec des amis chez moi, dans le 14e à Paris. Et coup de fil, bon, je me rappelle, je m'isole un petit peu. Et c'était le directeur des ressources humaines qui me dit, est-ce que vous voulez toujours faire astronaute? J'ai failli dire non, je me suis dit, vous auriez dû m'appeler avant, bim, c'était pas une bonne blague. Donc voilà, évidemment, je me suis dégonflé. Et j'ai dit ouais, donc j'étais super surpris, j'étais avec des amis, j'étais avec ma compagne, ils ont vu que je m'isolais pour parler au téléphone, que j'avais l'air un peu spécial. Donc elle a compris tout de suite, je pense. Puis voilà, c'était un peu inespéré, enfin c'était énorme pour moi, enfin pour nous tous. Hein. Donc on est sortis, on a bu un verre pour fêter ça, et puis dès le lendemain, en fait, on a commencé à préparer la suite.
Et oui, parce que la suite, c'est de longues années d'études qui vous attendent. C'est une formation. Vous retournez à l'école plusieurs années.
Ah oui, on retourne complètement. J'y suis encore, hein, quasiment. Être astronaute, c'est un peu être à l'école toute sa vie. Donc, il faut quand même aimer ça. Le petit message à passer, c'est qu'il faut aimer les études et apprendre et se remettre en question. C'est pas toujours facile à partir d'un certain âge. Et donc, l'entraînement initial, pour la première fois, fait en Europe. Hein, d'habitude, on faisait confiance à la NASA ou à nos partenaires russes. On envoyait nos astronautes. On va dire à l'école primaire des astronautes chez eux. Et là, pour la première fois, on décide de le faire chez nous, à Cologne, en Allemagne, au centre des astronautes. Et voilà, tous les 6, on retourne à l'école. Et c'était vraiment ça, emploi du temps de la semaine, sport le matin, russe l'après-midi, etc.
C'est le russe qui était une des étapes les plus dures à franchir, apprendre le russe.
Ouais. Sauf pour Samantha qui, elle, parlait déjà bien le russe. Samantha qui est très, très douée en langue.
Une des six,
Samantha, ma collègue italienne. Ouais. Pour les 5 autres, ça a été je pense, la chose la plus difficile. Partir de zéro et puis arriver à maîtriser une langue suffisamment pour pouvoir voler dans un véhicule dans cette langue.
Et le 17 novembre 2016, donc, le moment tant attendu arrive. Vous embarquez pour l'espace. Vous allez nous raconter comment s'est déroulée cette mission de 6 mois tant attendue. Thomas Pesquet nous emmène bivouaquer dans la Station Spatiale Internationale cet après-midi. Baby color, baby cause, baby poo, war. Baby tem, baby pel, ma pill. Wom, baby holos, baby pan, baby king, a war. Baby tar, baby tem, lingen.
New Guinea jail on the parole. New Guinea chorony yomatai. New Guinea's rose long in porola. By the be sorrows, the be lord, the be leave me yo. The be on, the be sem me yo. By the be pause, the be on, the be quiz me yo. Divi Lord, Divi Soros, Dio. New Guinea, Chelo, Niporol. New Guinea, Chol, Dio Matai. New Guinea, Soros, Long, Niporola. New Guinea, Chelo, Niporol. New Guinea, Chol, Dio Matai. Guinea's rose longing for all la, la,
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
C'était le Camerounais Blik Bassi qui chantait M. Dopol sur France Inter.
Allô Thomas, c'est Anne. J'ai du mal à croire que je te parle et que t'es en orbite dans la station. C'est super de vous voir tous enfin arriver. On a vécu un moment incroyable au moment du décollage, c'était magnifique. On est tous très heureux de te voir. Et on espère que c'était pas trop long. Pour moi, 2 jours, c'était très long avant de pouvoir te parler. Et on espère que tu vas bien.
Allô Thomas, c'est maman. Je suis très fière de te savoir là-bas. Je suis très heureuse de vous voir tous. Je vous souhaite un bon séjour là-haut, de belles expériences, que tout se passe très bien pour vous. Ça a été un spectacle inoubliable de vous voir décoller l'autre jour à Baïkonour. Et j'ai de très belles pensées pour vous tous les 6 que je vois en ce moment à l'écran.
Thomas Pesquet, nous venons d'entendre les mots que vous ont adressés votre compagne et puis votre mère juste après votre arrivée dans la station spatiale internationale. On entend leur émotion. Vous avez dû générer beaucoup d'inquiétudes autour de vous en décidant de devenir spationaute.
Oui, effectivement, non. Effectivement, c'est des moments qui étaient émouvants. Moi, j'étais très euphorique à ce moment-là, je me rappelle, parce que ça y est, on arrive dans la station spatiale, on est super contents. Mais pour eux, c'était un peu difficile. Le lancement, c'est vraiment une expérience sensorielle qui est forte, en fait, qui est vraiment, on voit la fusée qui disparaît dans les flammes. Enfin, c'est les mots ne rendent pas justice. Il faut vivre ce truc-là en direct. La terre qui vibre, la fusée qui décolle, la lumière qui déchire un peu la nuit. Donc ça a été un peu difficile pour eux. En plus, 2 jours pour arriver à la station, il n'y a pas de communication. Hein. Ouais. Donc c'est 2 jours d'inquiétude.
C'est étonnant parce que cette station spatiale internationale, elle est à 400 km au-dessus de notre tête. On vous voit décoller en trombe avec des accélérations pas croyables et il vous faut quand même 48 heures pour arriver à destination. Qu'est-ce que vous faites en route?
Alors, qu'est-ce qu'on fait en route? En fait, la raison pour laquelle... Alors, maintenant, on s'est amélioré quand même. Hein. Enfin, le véhicule Soyouz, on peut le faire maintenant en 4 orbites, c'est-à-dire en 6 heures à peu près. Et il y a même un projet pour le faire en 2 orbites, donc 3 heures.
C'est-à-dire qu'on tourne en fait autour de la Terre. On ne va pas en ligne droite. Hein.
Non, ce qu'il faut, c'est rattraper la station spatiale. Donc la station va très très vite, 28 000 km/h, et nous, il faut qu'on la rattrape.
C'est vous qui pilotez ou tout ça se fait automatiquement?
Non, c'est la plupart du temps, c'est automatique. Nous, on contrôle que tout se passe bien. Après, toutes les manœuvres sont possibles aussi en manuel. Surtout en fait quand on arrive autour de la station et là la manœuvre d'arrimage, enfin de manœuvre autour de la station et d'arrimage, ça ressemble un petit peu à un atterrissage en avion, un tour de piste atterrissage. Mais voilà, en fait c'est pour ça qu'on met si longtemps.
Et alors à bord, vous étiez avec vos 2 coéquipiers qui avaient été choisis pour faire cette mission. Avec vous, qui sont-ils, vos 2 compagnons de route?
C'est des vétérans de l'espace, on va dire. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que voilà, on s'entend avec tout le monde, on est compatible, on est sélectionné pour ça. ça, mais on a plus d'atomes crochus avec certains. Et nous, on s'est vraiment super bien entendu. Donc, c'était Peggy Whitson, qui était donc commandant de la station, qu'il a été avant, qu'il a été deux fois, qui a maintenant tous les records pour un, on va dire, un non-russe en termes de temps dans l'espace, en termes de nombre de sorties extravéhiculaires. Elle en a fait 10, elle a passé 3 missions de 6 mois et plus à bord de la station. Quelqu'un de très expérimenté, hyper compétent et extrêmement sympa, avec qui je me suis vraiment bien entendu.
Une pointure.
C'est la référence à la NASA. Quand vous dites Peggy Whitson, les gens mettent la main sur la couture du pantalon, quasiment.
Et avec donc Oleg Novitsky.
Exactement.
Qui est-il?
Alors lui, Oleg, c'est un pilote de chasse russe. C'était sa deuxième mission vers la station spatiale. Et lui, c'est vraiment le genre de personne, si vous avez besoin d'aller, je sais pas, dans un endroit difficile, faire de la survie ou aller à la guerre, il faut partir avec lui. Déjà, il a énormément d'humour, ce qui est très valable. Pour une mission de 6 mois, ça devient important. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vraiment.
Je veux bien vous croire, vous allez quand même passer 24 heures sur 24 ensemble.
Exactement. Hein. C'est quelqu'un qui est aussi hyper compétent, qui pourrait résister à tout physiquement, et c'est quelqu'un qui est fort, qui est moralement, qui est droit, mais qui en plus est à l'écoute des gens, très sympa, parce que forcément, on n'attend pas forcément de ce profil un peu militaire, un peu guerrier, et on s'est vraiment très très bien entendu avec lui aussi.
Autrement dit, vous êtes le petit jeune.
Moi, je suis
Benjamin.
Ouais. C'est ma première mission, et c'est ça qui est super sympa, c'est qu'on a eu cette dynamique qui était vraiment bien. Peggy, c'était vraiment la plus expérimentée. Oleg, sa deuxième mission, et moi, j'étais le petit jeune en fait. Mais du coup, chacun avait un peu ses spécialités, parce que bon, faut dire les choses. Avec un iPad, moi, j'étais plus à l'aise que Peggy, par exemple.
Donc, utile ça pour la station.
Oui, bien sûr. Non, mais bon, un iPad, c'est un exemple. Mais le côté informatique, évidemment, il y a 150 laptops un peu partout dans la station. Ouais. Il y a un réseau à l'intérieur qui nous sert à échanger tout ça. Donc chacun amenait, bon c'est un exemple, mais chacun amenait un peu ses spécificités, ses qualités, et on a une bonne dynamique d'équipage.
Alors, je vous téléporte Thomas Pesquet dans la station pour une petite visite guidée de votre chambre.
Nos chambres à coucher, c'est ce qu'on appelle les crew quarters en anglais. Il y en a 4 ici dans ce module. Il y en a un en haut qui est au plafond, Sergei, collègue russe. Un sur le côté tribord où dort Peggy, un collègue américaine. Un sur le côté bâbord, c'est le crew quarter du commandant de la station, Shane Kimbrough. Et le mien, il se trouve ici. Et à l'intérieur, c'est petit, c'est comme une cabine téléphonique, mais c'est assez cosy. J'ai mon ordinateur pour envoyer des emails à ma famille, pour appeler aussi sur Skype avec un casque. J'ai un deuxième ordinateur, j'ai mon iPad, j'ai mon nécessaire de bureau. Ici, évidemment, on accroche tout au mur, parce que c'est comme ça qu'on stocke nos choses en apesanteur. J'ai mon calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. J'ai des habits de rechange, j'ai du stockage un peu partout. Et ici, sur ce mur-là, j'ai mon duvet qui est tout bêtement accroché. Et c'est là-dedans que je dors. En fait, j'enfile ce duvet, je passe les bras comme ça. Et la nuit, je dors verticalement. C'est très confortable parce qu'on n'a pas le poids du corps et on dort extrêmement bien en apesanteur.
On dort vraiment si bien que ça dans cette station ?
Non. Non, si, moi j'ai eu de la chance parce que je dormais assez bien. Ouais. Mais il y a des gens qui dorment très mal. En fait, on n'a pas la sensation de reposer sur quelque chose qu'on a eu depuis qu'on est tout bébé, en fait, qui est vraiment, je pense, profondément ancré dans le système nerveux, on va dire, dans le cerveau. Et puis, on n'a pas la sensation d'avoir un duvet, une couette, une couverture qui repose sur nous. Oui. C'est un peu bizarre, en fait, d'être en apesanteur comme ça. Mais moi, ça ne m'a pas gêné. Parfois, quand on se réveille au milieu de la nuit, pour se rendormir, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas tourner.
Il y a un bruit en permanence. Et puis, on n'y pense pas, mais ça doit sentir terriblement le renfermé à bord de cette station spatiale.
Ouais, le bruit, c'est ce que je me disais en écoutant l'extrait. Et d'ailleurs, on entend la transition entre à l'extérieur du crew quarter de la cabine et à l'intérieur, parce que lui, il est insonorisé, c'est la Condor. Mais il y a des ventilateurs en permanence. Et ça sent le renfermer, sans doute, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Il y a des endroits, moi je me rappelle de l'odeur d'encens, je trouvais que ça sentait l'encens en rentrant dans la station, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais trop bien su, mais bon, après on a le système olfactif qui est un petit peu atténué. C'est comme dans un sous-marin ou comme dans un avion. Il paraît que dans un avion de ligne, après 12 heures de vol, quand on ouvre la porte, ça sent pas très bon, mais les gens qui sont à l'intérieur le sentent pas. Donc, tant mieux.
À quoi ressemblent vos journées type à bord de cette station?
La journée type, c'est toujours la même. On commence à 7h30 du matin par un briefing à la radio, en fait, avec tous les centres de contrôle qui sont répartis tout autour de la Terre, chez les partenaires de la station spatiale. Et donc, on passe en revue le plan de la journée, on donne les dernières infos, on répond peut-être à des questions qui ont été posé la veille, parce que les gens travaillent la nuit aussi, nous on va se coucher, mais au sol ça travaille la nuit, enfin la nuit.
Mais pour vous, la nuit ça veut plus dire grand-chose, parce que le soleil se lève et se couche combien de fois par jour
hein? Un certain nombre de fois. Alors ça dépend en fait, on va dire, de l'angle qu'on fait de l'angle que fait le plan de la station avec le soleil. Mais on va dire, c'est 15-16 fois normalement qu'on fait le tour de la Terre, 1h30 d'orbite sur 24 heures. Mais nous, à l'intérieur, évidemment, on simule une journée normale. On est calé sur l'heure UTC du méridien de Greenwich. On allume la lumière le matin, on l'éteint le soir, on ferme les volets de la cupola. Donc c'est assez marrant. C'est le dernier qui va se coucher, qui éteint toutes les lumières, qui ferme les volets.
La cupola, c'est la grande baie vitrée dont vous disposez pour regarder.
Exactement, qui est tournée vers la Terre. Ouais. Et donc le soir, on ferme tout ça pour des raisons de luminosité, aussi pour protéger les vitres d'éventuellement un petit éclat qui pourrait se projeter. Donc 7h30 le matin, tout le monde est prêt à sa journée. On discute, ça dure un petit quart d'heure, on va dire. Ensuite, chacun va vaquer à ses occupations. Recherche scientifique, c'est ce qui nous occupe le plus longtemps. Donc, on va faire des expériences européennes dans le laboratoire Columbus, japonaises dans le module japonais, américaines, russes, pendant toute la journée, seul ou à plusieurs. On fait de la maintenance préventive, on fait de la maintenance, parfois on répare des choses qui cassent, de l'entretien, de la logistique aussi. On passe pas mal de temps à bouger du ravitaillement. On a des véhicules qui nous amènent des choses. On évacue nos déchets. Et puis 2h30 de sport par jour. Et tout ça nous emmène jusqu'à, en général, 19h30, 20h le soir.
C'est réglé comme du papier à musique. Hein. Pendant 6 mois, vous n'avez pas une minute à vous. Est-ce que vous avez quand même un petit peu de temps pour vous détendre, pour faire autre chose que toutes ces tâches?
On a, après 20h le soir, on va dire, entre 20h le soir et 7h30 le matin, on fait ce qu'on veut. Évidemment, il faut trouver quand même quelques heures de sommeil là-dedans. Mais les gens sont libres d'occuper leur temps libre comme ils l'entendent. Et le dimanche, le samedi, on travaille, on va dire, une demi-journée ou les deux tiers de la journée. On fait le ménage de la station, c'est comme sur un bateau, on brique un peu tout le samedi. Et par contre, le dimanche, c'est libre, à part parfois une petite prise de sang, un petit prélèvement scientifique et 2 heures de sport. Mais c'est surtout le dimanche et le soir. Oui.
C'est le dimanche d'ailleurs que vous preniez toutes ces photos qu'on a pu diffuser sur Twitter, les a diffusées toute la semaine. Mais vous, c'était le dimanche que vous preniez ces photos de la Terre.
Ouais, c'était le dimanche beaucoup, ou le soir, parce que la bonne nouvelle quand on fait le tour de la Terre en 1h30, c'est que on peut avoir des belles opportunités de photos aussi le soir. C'est pas parce qu'il est 23h à bord de la station en temps UTC, il fait jour quelque part sur la Terre, que ce soit on va dire en Amérique du Sud ou en Chine. Donc on peut toujours prendre des belles photos. Il faut regarder, moi je me rappelle, je regardais la trajectoire de la station. Je me disais, aujourd'hui on dirait qu'à 19h45 on va passer au-dessus du Machu Picchu, ça fait une belle opportunité.
Alors il y a ces très belles photos de la Terre sous tous les angles. Et puis, vous avez vu des choses que peu d'hommes ont vues de leurs yeux, par exemple des aurores boréales vues d'en haut. Ça ressemble à quoi, une aurore boréale vue d'en haut?
Ça ressemble à une espèce de tapis magique vert. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on vole à travers ou au-dessus. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'avec la vitesse, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. On a vraiment l'impression de cette espèce de plasma qui bouge en dessous. Donc ça, c'est très sympa. Si en plus on a quelques lumières de ville, ça rajoute des petits points dorés, argentés là-dedans. Donc c'est vraiment un spectacle magique.
Ouais. Alors vous aviez avec vous de la lecture, et notamment, je crois, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un des pionniers de l'aviation. Est-ce que vous vous sentez l'âme de ces grands voyageurs, de ces grands explorateurs qui vous ont accompagné?
L'âme, c'est un bien grand mot. Je pense que nous, on est beaucoup plus aujourd'hui. C'est un travail collectif. En fait, je pense que ces gens-là, à l'époque, c'était un peu plus individuel quand même. Ils partaient à l'aventure un peu tout seuls ou en petit groupe. Nous, c'est quand même une grande machine. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au programme de la station spatiale. Et du coup, on se sent en fait un peu protégé par tous ces gens-là. C'est pas une aventure individuelle où tout seul on va mettre sa vie en jeu face à des éléments qui nous dépassent. On a quand même une armée de gens à l'ESA, à la NASA, qui travaillent avec nous.
C'est moins risqué qu'un Magellan ou qu'un Christophe Colomb en son temps.
Je pense. Moi, j'ai l'impression, de peut-être moins mettre ma vie en jeu que des gens qui partaient à l'aventure vers l'inconnu.
Vous écoutiez de la musique à bord?
J'écoutais de la musique, j'ai fait une playlist quotidienne tous les jours. Là, j'essayais de publier une chanson en plus. J'avais fait une liste de 100, je crois, 162 piste musicale avant de partir. Au final, je suis resté 196 jours, donc il a fallu rajouter un peu à la fin. Mais non, ça fait partie du quotidien, notamment quand on fait du sport. Quand on fait du sport 2h30 par jour, ben là, il faut un petit peu de musique. Sinon...
Qu'est-ce qui vous plairait de réécouter pour vous replonger dans cette ambiance?
Ah, moi j'avais eu pas mal de choses. J'avais Mylan, j'avais M83, une chanson qui s'appelle Go, qui était très sympa, qui était un peu un petit décompte de décollage.
Eh bien, allons-y. C'était Go de M83 avec la chanteuse Mylan sur les conseils de notre invité Thomas Pesquet.
L'examen visuel ne révèle aucun composant endommagé. Le problème provient apparemment du transpondeur.
C'est bien ce qu'il semblerait, oui. Il va falloir improviser, on dirait.
C'est bon, je suis dessus.
Vous en avez pour combien de temps?
Environ une heure.
Permission d'assister le Dr Stone dans la dépose du transpondeur?
Toute aide serait la bienvenue.
Autorisation accordée. Merci, Houston. Je peux jouer avec vous, alors?
Volontiers.
Vous vous sentez comment?
Comme un chihuahua dans un sèche-linge.
Si ça peut vous consoler, lors de mon premier voyage, j'ai vomi toutes mes tripes.
Thomas Pesquet, est-ce que vous avez identifié l'extrait que l'on vient d'entendre? De quel film il est tiré?
Ouais, c'est Gravity au début avec Georges Clooney qui fait le vétéran, Sandra Bullock qui est la petite nouvelle.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes assez fan de ces films de science-fiction et notamment de ceux qui relatent des aventures spatiales?
Eh ben, c'est assez fan. Disons que je les regarde. Après, le dénominateur commun, c'est qu'ils se passent tous mal. donc pour un astronaute, c'est un peu bizarre. C'est comme quand on est prof, aller voir un film sur l'échec scolaire ou je sais pas, quand on est commando, aller voir un film sur la paix, mais non, pas évidemment. On a un intérêt presque professionnel, et puis c'est un divertissement quand même assez sympa. Je me rappelle Gravity en 3D. Alors évidemment, il faut pas y aller avec sa casquette. Je suis un expert et je vais vous dire tous les problèmes et tous les détails qui vont pas.
Parce que c'est pas réaliste, Gravity. Alors ça raconte quand même l'histoire de cette station spatiale qui se prend des débris en orbite, et puis ça tourne effectivement très mal. C'est un film assez catastrophe. Ouais. Et ça, ce serait pas possible. Ça pourrait pas arriver.
Non, pas de la manière dont ça arrive. Il y a deux trois trucs qui marchent pas. Mais c'est vrai que les débris spatiaux, c'est quelque chose dont on s'occupe, on regarde ça. Alors l'espèce de grand nuage de débris spatiaux, ça marche pas vraiment comme ça, parce qu'il faudrait une énorme collision. Et puis en fait, l'espace c'est tellement grand et les choses dérivent tellement que très très rapidement, il y aurait plus vraiment un nuage, mais il y aura des débris individuels qui sont à des kilomètres l'un de l'autre. Alors c'est pas génial, mais on pourrait arriver à s'en sortir.
Alors des incidents à bord de la station spatiale, il arrive qu'il y en ait, hein, ouais. Tout de même moins grave, heureusement.
Nous, on a eu des alarmes de feu à bord de la station, mais des fausses alarmes, ouais. Un détecteur de fumée qui se déclenche au milieu de la nuit, c'est pas super agréable.
Non. Et vous avez eu un vrai problème, alors juste en arrivant, un problème de toilette. Alors, ça ouais. paraît rien, mais c'est quand même assez important à bord de la station spatiale.
C'est le truc le plus important à bord de la station spatiale. Enfin, un des trucs les plus importants, tout simplement parce que, ben, on a deux toilettes, il y a un côté russe, côté américain. Mais nous, on a que cette possibilité-là. Donc, la vie s'arrête, hein, quand il n'y a pas de toilette à bord de la station spatiale.
Ouais. Et c'est resté sans toilette pendant?
Non, c'était, alors on avait les toilettes côté russe, mais on a eu 48 heures pendant lesquelles on a pas mal réparé au début. C'était quasiment la première chose que j'ai faite à bord. Alors, au début, je pensais que c'était une blague. C'était le côté un peu bizutage. On me dit, voilà, le petit nouveau arrive, les toilettes, allez, faut aller les réparer. Comme au service militaire. Mais non, c'était réel et on a passé beaucoup de temps.
Alors, la mission la plus périlleuse que vous ayez eu à mener dans la station, c'est deux fois, vous avez fait des sorties extravéhiculaires. Mmh. Alors, pour vous, ça reste un grand moment. Hein. C'est-à-dire, on sort de la station, évidemment, en scaphandre. Ça demande beaucoup de préparation avant de sortir. C'est 4, ouais. 4 heures, c'est ça?
C'est oui, même un peu plus. Hein. C'est 5 heures et demie quasiment. Alors, c'est même quelques semaines de préparation. Et au sol, c'est 2 ans de boulot bien pour sûr. Les ingénieurs, pour vraiment préparer les procédures, les équipements, etc. Pour nous, c'est pas mal de vérifications, mettre les scaphandres en configuration, les préparer et aussi répéter un petit peu ce qu'on va faire, se familiariser avec l'équipement. Le jour J, ben on enfile tout ça, c'est compliqué, hein. Il y a pas mal de procédures à réaliser et puis on fait des paliers de décompression. En fait, on va d'une pression élevée à l'intérieur de la station à une pression plus faible dans le scaphandre. Donc ça, c'est comme remonter en plongée. Mmh. Donc pour pas que des bulles d'azote se créent dans le sang, on fait des paliers de décompression. On respire de l'oxygène pur. C'est pour ça que ça prend un petit peu longtemps.
Et au moment où le sas s'ouvre et que vous allez pour la première fois pénétrer dans l'espace, presque le vide, hein, le quasi-vide. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous n'avez que votre scaphandre. Alors, je crois qu'il y a 10 couches d'isolant, mais enfin, ouais. C'est quand même pas bien épais. Et voilà, pour vous protéger de ce milieu archi-hostile.
Ouais, c'est évidemment la situation où le danger est le plus grand. Alors, c'est maîtrisé, évidemment, mais bon, quand même, on est dehors. Quand on est dans la station, c'est comme un gros bateau ou un sous-marin, il y a des couches de métal, tout ça marche bien. Quand on va se mettre à l'extérieur, là, c'est plus la même rigolade. Mais non, la sensation, je me rappelle, de basculer en sortant du sas, le sas, il regarde vers le bas. Hein. Ouais. Donc, soit, suivant le timing, on peut sortir de jour ou de nuit. Et bizarrement, de nuit, je trouvais ça encore plus impressionnant parce qu'il faut basculer la tête la première, faire une espèce de rétablissement. On se retrouve suspendu sous la station et la station est éclairée. En dessous, c'est le grand, grand vide. Hein. Ouais. C'est comme de nager à la surface de l'eau la nuit avec, on sait qu'il y a 10 km de profondeur. C'est un petit peu, un petit peu étrange.
Sauf que là, il y a 450 km de profondeur. Ouais. Et on a encore une sensation de vertige à ce moment-là quand on voit la Terre à toute allure défiler sous ses pieds.
Non, c'est pas une sensation de. Alors, c'est assez individuel. Apparemment, les gens le vivent pas de la même manière, mais on n'a pas une sensation de vertige, c'est-à-dire que c'est pas dérangeant, parce que le corps s'est habitué à ça pendant quelques semaines déjà à bord de la station. Ma première sortie, c'était le 13 janvier, donc ouais. J'étais là depuis un mois et demi. On peut se tenir avec juste deux doigts, regarder un vide de 400 km, ça gêne pas. Par contre, ce qui était vraiment désagréable, moi je trouvais, c'était si par exemple on met une longe et de complètement lâcher et de sentir qu'on flotte un peu comme ça, qu'on s'éloigne de la station. Ça, c'est désagréable. On a tout de suite envie de rattraper agrippé. Quelque chose. De rester agrippé.
Il y a cette longe, si jamais la longe, puisque tout est toujours prévu, si la longe cède, si elle se décroche, en gros, si vous vous retrouvez détaché de la station spatiale, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, on a un fil d'Ariane en plus qui lui se déroule avec une bobine qui nous suit, donc on a une deuxième sécurité. Si jamais tout ça marche pas, ce qui est pas prévu évidemment, on a un mini scooter de l'espace, on a en fait un propulseur dans l'espèce de grand sac à dos qui est derrière nous, il y a tous les équipements. On pourrait déployer une petite manette qui sortirait sur le côté comme ça et se piloter un retour vers la station. On s'entraîne à ça en réalité virtuelle, évidemment, ouais. On peut pas vraiment s'entraîner en vrai, mais en gros on a assez de carburant, enfin c'est du gaz, hein, de propulsion pour revenir vers la station. On a une chance de retour, c'est pour ça on s'entraîne au sol à essayer de le faire bien.
C'est-à-dire que si jamais la première fois vous échouez, vous avez plus assez de carburant retenter le coup.
Ouais, c'est ça.
D'accord, ouais,
Et ce qui est vraiment, ouais, ce qui est pas génial, c'est qu'en plus on pourrait passer très très près, on fait très très près et très 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 lentement, mais ça changerait rien du tout. En fait, si on a mal visé, bah, on va dériver très
on peut pas nager, on peut pas, ah, non, on peut non, pas on exécuter peut, quelques pour, petits
on
mouvements
peut
pour
rien
se rapprocher.
Faire du tout. Et oui, on peut rien faire
voilà,
du
ça
tout.
Voilà, ça doit être terriblement rageant. Il y avait quand même une pression à ce moment-là quand vous sortez.
C'est sûr qu'on sent que l'enjeu est élevé. On n'a pas vraiment, enfin moi, j'avais pas de crainte pour ma vie, mon intégrité physique, mais on a vraiment, moi, ma plus grande peur ou inquiétude, c'était de laisser échapper quelque chose en fait, parce que tous les équipements sont attachés, chacun un petit crochet, un anneau, on essaie de faire en sorte que tout soit toujours sécurisé quelque part, parce qu'évidemment si on laisse échapper un instrument, bah là c'est la même chose que de ce qu'on évoquait tout à l'heure, il va dériver tout lentement, on va pas pouvoir aller le récupérer, et ça devient ensuite un débris spatial, les fameux débris spatiaux, donc on veut pas que ça arrive. Donc on est un peu paranoïaque là-dessus et on fait très attention.
C'était quoi le but de cette mission ?
Alors il y avait la première, on a changé le système de batterie. Il y a 8 circuits électriques, 8 grands panneaux solaires en fait et 8 circuits électriques associés. Chacun a son système de batterie. Et ben il a fallu les upgrader en bon français, hein, donc avoir un nouveau système de batterie et on a changé sur 2 de ces 8 systèmes électriques.
Alors il s'agissait d'une opération de maintenance, mais vous l'avez dit, hein, 50% de votre temps de travail à bord de la station est occupée par des missions scientifiques. Ouais. Petite visite des laboratoires de la station.
Derrière moi, c'est un laboratoire européen où on fait de la physiologie, recherche en physiologie. Là-bas, on a une machine à ultrasons. Ici, au fond, c'est là où on fait des prises de sang. Laboratoire de biologie, la lumière rose ici. Ces expériences sur les plantes, où on fait pousser des plantes. On va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais. Laboratoire japonais, c'est le plus grand module de la station spatiale. On a des frigos à moins 80 degrés, des congélateurs même. Encore une fois, science des matériaux pour étudier les alliages, physiologie, physique des plantes. On a des équipements de communication. On a ici le station de commande du bras robotique japonais qui se trouve derrière moi. Ici, un sas pour faire sortir des expériences scientifiques. Ce module japonais, il a une particularité, c'est qu'il a un grenier dans lequel on peut entreposer énormément de choses et ça c'est super pratique.
Thomas Pesquet, à bord de la station, l'espace, pas celui qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un luxe, un grenier, c'est un luxe incroyable.
Oui, effectivement, parce que on avait bien pensé aux équipements, les systèmes qui permettent à la station de voler, et puis le but de la mission, c'est-à-dire les équipements scientifiques, tout ça, on y a bien pensé. Par contre, ce à quoi on n'avait pas trop pensé, c'est qu'il fallait des espaces de stockage. Ouais. On a essayé d'utiliser tout l'espace, et puis on se retrouve avec énormément de choses. Ce qui manque le plus à bord de la station,
c'est des placards,
c'est des lieux de rangement. Parce que l'espace, oui, c'est un luxe. Tout ça, c'est confiné. On est très contents que les Japonais aient un peu d'espace là-haut.
Alors, quelques exemples des expériences scientifiques que vous avez réalisées à bord.
Alors, on a fait beaucoup d'expériences de médecine. On a étudié le cerveau des astronautes. Pourquoi ? Parce qu'on a un apprentissage en fait qui est similaire, on va dire, à ce qui se passe quand on apprend le vélo quand on est jeune. Des branchements de neurones qui se font et qui ensuite indiquent un peu aux scientifiques ce qui se passe dans le cerveau neurologiquement quand on apprend quelque chose, quand on perd une capacité, par exemple après un accident de voiture, on essaie de faire une cartographie du cerveau. On a des études sur les muscles, l'atrophie qui se passe chez nous, parce qu'on utilise moins nos muscles, notamment les jambes, le dos. C'est similaire à des pathologies comme des myopathies, donc on essaie de regarder ça. On a un vieillissement accéléré du système cardiovasculaire qui est réversible, donc ça les scientifiques aiment bien regarder parce que ça peut un peu nous donner la clé de la cure de jouvence. On construit des protéines, des assemblages compliqués qui sont cristallins en fait de protéines à bord de la station spatiale parce que on n'a pas l'effet parasite du poids et de la sédimentation. Et ça nous permet d'avoir des techniques plus fines au sol. Voilà, il y a plein de domaines et ce qui est sympa, c'est que d'un jour sur l'autre, on se transforme un peu en médecin et puis en biologiste, ouais. En spécialiste des matériaux.
Vous êtes les bras de centaines de scientifiques qui sont restés à terre,
exactement.
En fait. Hein. Vous êtes envoyé en mission pour réaliser des expériences qu'on vous commande, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Alors, toutes les agences font des appels à idées, on va dire, et les laboratoires postulent en disant moi, je travaille dans les cristaux de protéines, ça me plairait vraiment de pouvoir faire ça. On met l'expérience en musique, on va dire, on la spatialise, on l'envoie à bord de la station. Nous, on s'entraîne dessus au sol, on rencontre les scientifiques qui nous expliquent, et on la réalise pour eux à bord, et souvent, ils regardent par-dessus notre épaule avec la vision. vidéo.
Une pression supplémentaire. Alors, votre temps était précieux et compté à bord de cette station spatiale. Vous avez quand même pris le temps, parfois, de répondre à des écoliers, ici des élèves de CM1 et CM2.
Je vous entends bien, je suis prêt pour les questions. Over.
Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné lors du voyage et en arrivant sur l'ISS ? Over.
Lors du voyage, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la vue de la Terre et surtout les levées de soleil, vue de l'espace qui sont magnifiques. Et en arrivant sur l'ISS, c'est la taille de la station spatiale. C'est immense, c'est une vraie station spatiale comme dans les films, comme dans Star Wars. Over.
Penses-tu que tu seras le même homme lorsque tu vas rentrer ? Over.
Bonjour Noé, je pense que je ferai plus attention encore à l'environnement et à protéger notre planète parce qu'elle est vraiment belle depuis l'espace, mais en même temps très fragile. Over.
C'est incroyable.
Et vois le coucher du soleil 16 fois par jour.
On a vraiment eu de la chance qu'on puisse tous poser notre question et puis on est vraiment très fiers.
Un moment unique, de quoi se forger des rêves d'astronaute.
Quand même, ma famille ou mes copains, ils vont quand même me manquer un peu, mais sinon, ouais, ça serait cool.
Thomas Pesquet, c'était important pour vous de ménager ces temps d'échange avec les jeunes ?
Ouais, c'était super sympa. Alors c'est un peu les contacts radio amateurs, il faut aller très vite parce que ouais, tout le monde veut poser sa question. On a un temps limité, il faut faire réponse très courte, mais c'est assez drôle. Non, c'était bien parce que moi j'aimais bien déjà, ça me distrayait, on va dire, parce qu'on est quand même, c'est un huis clos, hein, ouais, on est six ouais. pendant six mois. Donc là, ça apporte un peu de nouveauté, de fraîcheur, de communication avec le monde extérieur. Et puis voilà, expliquer ce qu'on fait, expliquer pourquoi on le fait, le côté un peu pédagogique. Moi, je viens d'une famille de profs, donc j'ai dû avoir ce gène-là dans mon berceau.
Vous aviez conscience, quand vous étiez là-haut, que vous étiez en train de devenir une célébrité sur Terre, au moins en France en tout cas?
Pas vraiment, moi j'avais, on avait, alors je suis pas le premier à aller dans l'espace évidemment, j'avais vu mes collègues dans d'autres pays, ou des Américains ou des Canadiens qui avaient aussi utilisé les réseaux sociaux, je me doutais que les gens allaient peut-être suivre un petit peu ça, par contre j'avais pas du tout anticipé l'ampleur que ça a pris, hein. Et ça je l'ai découvert en rentrant sur Terre, parce que moi je pouvais pas lire tous les commentaires, échanger avec les gens, mais tant mieux, ça veut dire que les thèmes intéressent les gens, que ça fait rêver l'espace, qu'il y a un potentiel de rêve et puis que les gens nous soutiennent dans ce qu'on fait, donc tant mieux.
Nous allons voir comment s'est passé le retour dans un instant. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac avec Thomas Pesquet sur France Inter.
De la base au sommet, il n'y a que quelques phrases. Je fais mine comme tout le monde de croire que ce qui compte, présenté même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. Homme ou femme, je ne vois caché derrière un mur de données, je nous vois. Je fais mille de mille feux m'illuminer, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. Toutes ces voix anonymes pour dissiper le spleen. Je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je me fie aux apparences, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade.
Cascade, Jérôme Minière dans Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Ça y est, il est revenu sur Terre, le très médiatique spationaute français Thomas Pesquet a atterri cet après-midi dans les steppes du Kazakhstan en compagnie du cosmonaute russe Oleg Novitsky. Un voyage retour d'à peine plus de 3 heures, sans histoire, auquel vous avez assisté depuis le Centre européen des astronautes de Cologne, Sophie Becherel. Thomas Pesquet avait l'air en bonne forme à son arrivée.
Oui, souriant, pâle, mais pour qui n'a pas vu le soleil depuis 6 mois, c'est plutôt normal. Thomas Pesquet est effectivement en bonne forme. Évidemment, les 3 heures de descente ont été rudes. Et comme à l'accoutumée avec son collègue russe, il a été assis dès la sortie de la capsule. Après avoir été interrogé par son médecin dans la steppe kazakh, Thomas Pesquet doit s'envoler vers Cologne à bord d'un avion privé. Il est attendu ici à l'aéroport militaire à 3 heures du matin à peu près. Une première nuit vraiment allongée, un repas frais et peut-être une pluie ô combien joyeuse quand on en a été privé si longtemps.
2 juin 2017, vous retrouviez la terre ferme, Thomas Pesquet. La descente dans l'atmosphère terrestre à bord de la capsule de retour, c'est violent ?
Oui, c'est violent. C'est la phase la plus dynamique, on va dire. On est écrasé par le freinage atmosphérique. Donc, on a 4G, un peu plus 4-5G. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment un éléphant assis sur la poitrine. Ça bouge énormément. Le Soyouz se sépare en trois. Donc, un vaisseau spatial étanche qui se sépare en trois, ça veut dire des explosions. Hein. Ouais. C'est des boulons explosifs. Donc, ça tape dans tous les sens. L'ouverture du parachute, c'est aussi un sacré coup. Et le choc, enfin l'atterrissage doux, que les Russes appellent doux, mais qui est en fait un sacré choc avec le sol, hein, c'est quand même un petit accident de voiture et après des tonneaux. Donc tout ça, après 6 mois sans sentir le poids de son corps, c'est un petit peu spécial, mais on est content de rentrer.
Oui. Vous étiez content de rentrer ou vous seriez bien resté un peu plus ?
C'est un peu les deux. C'est un peu comme la fin des vacances quand j'étais petit. Donc non, mais c'est vraiment cette idée. Alors c'était pas du tout les vacances évidemment, mais on quitte un environnement un peu spécial. On est content avec des nouveaux amis, on va dire. Mais on retourne dans la vie normale, on retrouve les copains d'école, etc. C'est un peu cette sensation-là. On a envie que les vacances se prolongent parce que c'était vraiment une expérience inouïe. On ne sait pas si on va la retrouver, enfin du moins pas de la même manière. Mais en même temps, on sait que la vie normale nous attend et on est content de retrouver son environnement.
Et quand la porte de la capsule s'ouvre, une bouffée d'air frais, enfin, hein, vous êtes dans la steppe kazakh, des sons, des sensations oubliées. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Vous vous souvenez de ce moment précis ?
Ah oui, je me rappelle bien. Je me rappelle d'avoir bien vu la terre sur le côté de la capsule parce que elle avait un petit peu tourné. Moi, ma vitre était vraiment côté sol, donc ouais. Je voyais l'herbe, je voyais la terre, c'était un peu marrant. Et quand la capsule s'ouvre, moi je trouvais que c'était un peu comme une télé avec le contraste un peu trop fort, de retrouver un peu cette variété qu'on avait perdue. Et puis je me rappelle des odeurs aussi de l'air frais et puis des gens qui sentaient le savon ou le shampoing.
Ah oui.
Alors qu'ils n'étaient pas spécialement, je veux dire, on était au milieu de la steppe, oui, donc oui. Ils s'étaient pas fait une beauté. Hein, c'était juste c'était des gens normaux, mais je sais pas, cette espèce de, c'est pareil, le contraste, on va dire, olfactif, ouais, était au maximum, mais du coup ça veut sans doute dire quelque chose aussi sur notre odeur à nous. On ne devait pas sentir spécialement la rose en rentrant de l'espace.
Et puis physiquement, vos bras pèsent une tonne, vous êtes dans un drôle d'état.
Oui, on est dans un drôle d'état. On a effectivement de lever la main, j'ai l'impression de devoir porter quelque chose de lourd. Quand ma tête part sur le côté, j'ai l'impression que je vais être entraîné par le poids et que les muscles de mon cou vont jamais arriver à la remettre droit, parce que on n'a plus l'habitude de lutter contre tout ça, alors ça revient assez vite. Mais le système d'équilibre aussi est perturbé. On a des nausées, on a des vertiges, donc il faut de l'aide. Ouais,
l'aide et il faut pourtant faire très vite face aux obligations protocolaires. Quand vous étiez parti 6 mois plus tôt, le président de la République s'appelait François Hollande. Là, c'est un certain Emmanuel Macron qui vous demande au téléphone.
Bon, comment vous vous sentez ?
Eh bien écoutez, ça va très bien, je me réhabitue doucement à la gravité, ou même tenir ce téléphone, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite depuis 6 mois, mais non, ça va très bien, on a tout bien passé, le véhicule a fonctionné de manière absolument splendide, et puis on sent très bien, on s'était préparé à ça, l'équipe qui nous a récupéré est hyper professionnelle, donc tout va bien, on est bien entouré, on va très très bien, merci beaucoup.
Depuis que vous êtes parti, il s'est passé pas mal de choses, enfin vous êtes tenu. Vous êtes tenu informé, mais on vous fera un brief complet en rentrant.
Ah ben écoutez, avec grand plaisir, monsieur le président.
Vous aviez pu voter pour la présidentielle de 2017, Thomas Pesquet ?
J'avais voté, ouais.
Par procuration, donc
avant de partir.
Au-delà des changements politiques, physiquement, vous avez mis combien de temps à vous remettre ?
Alors, ça va très vite, en fait, et c'est pour ça que d'ailleurs les scientifiques veulent avoir accès à nous pour des prélèvements tout de suite, parce qu'on se réhabitue très très vite. Le corps humain, c'est une machine d'adaptation absolument phénoménale. En quelques jours, on est à 85%. En deux semaines et demie, on est à 98%. Et par contre, après, les deux derniers pourcents, ben là, ça va être le cardio, la performance physique. Et ça, il va falloir 4, 5, 6 mois pour revenir au même niveau qu'avant la mission.
Et psychologiquement, on se dit aussi que psychologiquement, voilà, c'était un rêve. Tous vos entraînements, tout était tendu vers cette mission. Vous revenez, un grand vide doit s'offrir à vous.
Mais ouais, alors ce qui est bien, c'est que la mission, elle n'est pas vraiment finie quand on se repose, parce qu'on a des semaines de prélèvements scientifiques, de débriefing. Donc on a un emploi du temps qui est aussi minuté qu'à bord de la station. Mmh. Ça, c'est bien, pendant encore quelques mois. Puis après, on part en vacances, on retrouve les siens. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, tout ne s'arrête pas, tout ça continue.
A priori, le prochain vol pour la Station Spatiale Internationale, ce serait pour fin 2020, peut-être début 2021, si tout se passe bien.
On essaie de viser ces dates-là. Alors, dans le cadre du programme, l'Agence Spatiale Européenne a à peu près un vol tous les ans. Donc c'est un peu chacun son tour entre les pays de l'Europe. Et là, mon collègue allemand revient de la station. Le prochain, c'est mon collègue italien qui décolle cet été. Suite à quoi, si tout va bien, peut-être ce sera le tour de la France.
Rapidement, pour conclure, le rêve ultime, c'est Mars. Une étape peut-être sur la Lune. Vous en rêvez de la Lune et peut-être même de Mars.
Oui, on en rêve parce que on a l'ambition de retourner sur la Lune de manière un peu plus durable. C'est vraiment d'avoir une station autour de la Lune, de faire des missions, de s'installer, d'utiliser les ressources au sol. Et puis tout ça, c'est une grande répétition. Alors il y a des buts scientifiques, mais ce sera aussi une grande répétition pour ensuite aller vers Mars, où là on sait que on va chercher la vie, on va chercher des réponses à des questions un peu fondamentales.
Merci Thomas Pesquet d'être passé par le temps d'un bivouac. On vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci.